CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Comment faire pour comprendre la Bible ?» Un bon thème quand même, hein ?
Oui. Très bon thème, bravo.
Très important.
Bonjour à notre invité, Pasteur Donato Anzalone.
Eh oui.
Bonjour,
Pasteur Donato.
Bonjour, chacun.
Bonjour,
bonjour. Bonjour.
Quel joie d'être avec vous.
Oui.
Super, je me sens à la maison ici. Bonjour chez vous, pas chez moi.
Mais tu es à la maison, tu es à la maison, Pasteur Donato. Quel plaisir de t'avoir avec nous. Tu es le responsable du ministère Parole Vivante et tu prêches parmi les nations la parole de notre Seigneur. Tu as également une église à Lugano,
exactement,
au Tessin, en Suisse. Oui. Bonjour à nos amis tessinois qui nous suivent. Il y a beaucoup de tessinois qui parlent français quand même.
C'est vrai, moi, pareil.
Ben, par exemple.
Même si je ne suis pas tessinois, mais j'habite au Tessin quand même.
Oui, tu es tessinois, c'est
voilà, on a des francophones dans notre église aussi. On a des gens qui viennent du Valais, qui viennent du canton de Vaud, etc. Et, tout. Et puis il y a des gens comme moi qui viennent de Belgique.
Ben voilà, il en faut.
Et même ma femme qui est hollandaise, elle parle français.
Exactement.
Et il n'est pas un inconnu à EMCI, ça fait plusieurs années qu'il vient. Hein.
Oh ben, c'est en fait, Pasteur Donato, tu étais là dès les débuts.
Les
tu as
premières
fait les
pensées.
Les premières pensées du jour,
ouais,
c'est ça
ouais,
qui était dans ce bâtiment, dans
même
ce studio.
Même pas,
là.
C'était en
haut.
Premier étage.
Ah, c'était en haut.
Ça, c'était un truc un soir qu'on avait fait à Mika, moi, Pasteur Donato, il y avait Pasteur Freddy.
Il y avait Freddy de Coster aussi.
Et il y avait mon père, on était. C'était les premiers trucs. Et
puis,
En fait, je devais voir mon papa. Moi, j'aime beaucoup les bouquins. Donc, j'étais au bookshop à Granby. Il dit, Pasteur Donato, je dois te prendre avec moi. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Je vais te montrer enseignemoi.com. Je dis, ah bon? Il dit, et puis, tiens, et tout. Et puis, il m'amène et dit, Donato, vous devez faire des émissions. Ah!
Et il y avait été, je m'en souviens, c'était 3 minutes, les pensées du jour, et il y avait été pile 3 minutes, et tout le monde était impressionné.
Wow. Je suis le seul qui fait pile 3 minutes.
Ouais.
Le défi est lancé, parce que tu vas être avec nous dans les 2 prochaines émissions. Et tu vas voir les 2 prochaines pensées, tu seras avec nous jeudi et vendredi,
wow,
donc on ne t'abandonne pas. Mais aujourd'hui, tu vas faire une rubrique conseil du coach, tu es notre coach du jour, tu vas nous parler de
herméneutique,
c'est quoi ça?
Oh là là,
c'est un mot bien compliqué.
Ouais,
quoi,
c'est très compliqué comme mot. En fait, ça veut dire simplement interpréter la parole de Dieu. En fait, l'herméneutique, c'est l'art, la science d'interpréter la parole de Dieu. On va un petit peu parler, quelques conseils pour nous aider. Pour nous, tous les jours, quand on lit la parole, on n'est pas des spécialistes ici. Bon, on va essayer de s'entraider ensemble.
Super, ça va être génial. Moi, j'ai vraiment hâte parce que je trouve ça passionnant de comprendre clairement la Bible parce que parfois, il y a des versets qu'on croit avoir compris, mais en fait, on ne les a pas du tout compris.
Exactement.
Donc, on va commencer cette émission aujourd'hui justement avec toi, Aurélie. Tu vas commencer toi-même à nous aider à comprendre la Bible dans la pensée du jour.
Comment comprendre la Bible? Ben, c'est légitime de se poser cette question parce que dans la Bible, il y a des livres qui peuvent paraître complexes et justement incompréhensibles. Et aussi des personnes, lorsqu'on leur parle et on leur dit, mais toi, la Bible et tout, tu lis, ils disent, oui, mais moi, j'ai déjà lu toute la Bible. Et là, tu leur demandes, et qu'est-ce que tu as compris et tout? Et là, en fait, tu te rends compte qu'ils ont peut-être lu la Bible comme un roman, mais ils n'ont pas vraiment compris tout ce qui est dans la Bible. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que la parole est esprit et vie. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de statique, mais vraiment une parole révélée, une parole comprise, a vraiment le pouvoir de changer une vie, a le pouvoir de briser la religiosité, les traditions, toutes ces choses justement qui s'installent dans nos vies lorsqu'on n'a pas compris la parole. Dans Actes 8, au verset 26, on nous raconte l'histoire de l'eunuque éthiopien. Il était venu à Jérusalem pour adorer et là, il a rencontré Philippe. Et Philippe lui a posé une question, il a dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et là, l'eunuque a répondu, il dit, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Donc, la Bible nous dit qu'il était en train de lire Ésaïe 53, en fait, mais il ne comprenait pas, c'était qui ce prophète dont on parlait. Et là, Philippe a commencé à lui expliquer ce passage. Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et là, la vie de l'Éthiopien a complètement changé parce qu'il a compris ce passage biblique. Et là aussi, on voit l'histoire de Jésus. Alors que les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, ils sont là, ils sont en train de dire « Ah, mais ne sais-tu pas qu'est-ce qui s'est passé ici ?» On avait ce monsieur, on disait que c'est lui qui allait nous sauver. Il n'avait pas su que c'était Jésus avec qui il marchait. Et là, dans Luc 24, au verset 25, c'est Jésus qui leur parle et il dit « Ah, mais hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. » Et puis Jésus, on dit « Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » Donc Jésus a appris depuis Moïse, tous les prophètes, et là, il a expliqué la parole à ces gens-là et leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris, ils ont une compréhension de la parole. En fait, ces histoires nous montrent que pour comprendre la parole, on a besoin aussi des personnes, en fait, qui sont inspirées par le Saint-Esprit, comme ça a été le cas avec Philippe, avec l'eunuque, comme aussi Jésus a pu l'expliquer à ses disciples. C'est des personnes qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et on retrouve ces personnes-là dans nos églises, hein. Ça peut être nos pasteurs, nos enseignants, mais des bonnes personnes, vraiment, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, qui prêchent la parole dans son entièreté avec vérité, peuvent nous faire comprendre la parole de Dieu. On parle du Saint-Esprit aussi, l'importance d'être né de nouveau, parce que la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Il est avantageux que moi je m'en aille, mais le Saint-Esprit, lui, il va vous enseigner toutes choses. » Donc on a parlé des personnes, elles sont importantes, mais elles ne seront pas avec vous chaque jour. Mais le Saint-Esprit, lui, il habite en vous, et lui, on peut facilement le consulter et dire « Mais Saint-Esprit, voici la parole, tu es l'auteur de la parole. » Qu'est-ce que ce passage, qu'est-ce que ce verset signifie exactement? Et là, le Saint-Esprit va pouvoir nous le révéler, il va pouvoir nous expliquer ce verset qui va changer notre vie. Mais aussi, bien sûr, pour comprendre la parole, c'est important de la méditer. On ne peut pas juste la comprendre comme ça en l'air. C'est important de la méditer avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut apprendre aussi à lire à propos des contextes de la parole. Vous savez, il y a souvent ces petites phrases en tout début qui sont écrites tout petit. En italique, qu'on n'aime pas lire, et aussi parfois, avant qu'un chapitre commence, ces explications qu'on n'aime pas lire, on veut juste rentrer dedans, mais c'est le contexte, en fait, qui nous est parfois expliqué dans ces phrases-là. Prendre le temps juste de comprendre le contexte, permet de remettre les versets aussi dans un bon environnement, et ça facilite notre compréhension, et lire la Bible avec le regard de l'auteur, comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la Bible. La Bible nous dit qu'elle a été écrite, inspirée par le Saint-Esprit. Avec son regard, on découvre tout simplement le cœur de Dieu en lisant la Bible. Et vous pourrez mieux comprendre cette parole qui est puissante pour transformer votre vie.
Amen. Merci Aurélie, merci beaucoup. Tu as marché un petit peu sur le conseil du coach.
Non, c'est pas moi.
C'est une petite introduction. Merci beaucoup Aurélie. Effectivement, la parole de Dieu, on a besoin de la comprendre justement parce que c'est la parole de Dieu. C'est pas juste un roman, comme tu l'as dit Aurélie, c'est pas un bon livre qu'on lit et qu'on fait « Ah ouais, super, ah, j'attends avec hâte le tome 2 hein. ». Non, la Bible est complète, elle est la parole de Dieu, elle est vivante, elle est actuelle, comme tu l'as dit Aurélie. On va regarder un verset qui va nous aider déjà à comprendre le point 1 pour comprendre la parole de Dieu. Proverbe 28:5 nous dit « Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui recherchent l'éternel comprennent tout. »
Amen.
Aurélie, dans ce verset, on comprend que premièrement, il faut être né de nouveau pour comprendre la Bible.
Exactement, parce que comme on l'a dit, hein, le Saint-Esprit, c'est celui qui est l'auteur. Et là, mais si tu es livré au mal, en fait, ça veut dire que tu n'es pas associé avec le Saint-Esprit. Mais lorsque tu choisis de chercher Dieu, de t'associer avec le Saint-Esprit pour connaître, pour comprendre les choses, mais voilà, il va t'expliquer les choses, en fait. Et c'est important aussi de le comprendre parce que là, je vous ai pris le cas des disciples d'Emmaüs. C'est des personnes qui ont marché avec Jésus-Christ. Parfois, on pense que juste parce qu'on lit, on comprend. Mais les disciples, c'est des personnes qui ont marché avec Jésus, c'est des personnes qui connaissaient l'Ancien Testament, en fait, mais qui ne comprenaient pas. Donc, c'est pas juste parce qu'on lit les choses qu'on comprend, mais c'est vraiment parce que le Saint-Esprit donne un éclairage divin qu'on peut avoir la révélation de la parole. Et quand on regarde même dans la Bible les chefs religieux, il y a des versets, « Oh, moi, je fais ça, je fais ci », ils restent dans une dimension de l'écriture qui n'est pas révélée, en fait. Et il se retrouve dans des traditions. Mais Jésus dit aussi, ben, vous annulez même ma parole à cause de vos traditions, en fait. Du coup, c'est quand t'as pas compris, tu es dans des schémas, tu tu es dans des traditions, tu fais des choses, tu comprends pas le sens, mais quand le Saint-Esprit vient, mais il te donne une révélation de la parole. Amen. C'est pour ça qu'il faut être né de nouveau. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut inviter le Saint-Esprit, même quand on lit la Bible. C'est pas juste je viens, je lis. Mm. J'invite le Saint-Esprit. Mm-hmm. Saint-Esprit, éclaire-moi. Amen. Par rapport à ces passages. Éclaire-moi, montre-moi comment je dois le comprendre. Mm. Et c'est comme ça qu'on comprend. Amen.
Si je peux ajouter quelque chose avec le fait d'être né de nouveau, ce qui est très important. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, même des théologiens, qui ne sont pas nés de nouveau, mais ils étudient la Bible pratiquement comme si c'était une autre philosophie pour eux. Mm-hmm. Et ils vont la comprendre avec l'intelligence, mais ils ne vont pas la comprendre avec l'esprit.
C'est ça.
Mais il y a aussi autre chose. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Mm-hmm. Il est en train de parler de l'homme chrétien, mais qui vit... En fait, dans ma traduction, c'est l'homme animal. Alors, on sait bien que l'homme n'est pas un animal. Ouais. Mais ça veut dire animal, la psyché. Mm-hmm. C'est l'homme qui est conduit par ses sentiments, par ses sens, par son intellect, ne va pas comprendre et recevoir, le verbe important ici, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Mm-hmm. Donc, quand on va lire la parole de Dieu, c'est très bien ce que tu as dit, Aurélie, on doit vraiment demander à Dieu, révèle-nous. D'ailleurs, 1 Corinthiens 2 parle justement de la révélation du Saint-Esprit. Il dit, il parle d'abord d'une information, puis d'une révélation qui se termine par une démonstration de puissance.
Amen.
Parce qu'à la fin, la raison pour laquelle on lit la Bible, c'est pas pour avoir de l'information.
Exact.
C'est pour avoir une transformation de ce que Dieu veut faire dans notre vie.
Tout à fait.
Amen. Amen. Mais moi, j'ai pris un cours d'herméneutique, c'était la session passée, et je me rappelle, il y avait un pasteur. En fait, le groupe était constitué d'étudiants, mais aussi des pasteurs aussi qui prenaient le cours. Et un pasteur qui dit, ben attends, c'est comme si je dois remettre ma Bible de côté et tout recommencer à zéro, en fait, parce que tu apprends toujours. Et les disciples étaient avec ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient avec Jésus tout ce temps-là, pendant ces 3 ans-là. Mais il y a des dimensions, il y a une nouvelle connaissance, une nouvelle révélation qu'ils ont dû avoir. Et je crois que ça s'applique à tout le monde. Autant les gens qui sont 20 ans de vie chrétienne, mais tu dois savoir qu'il y a encore plus que le Seigneur doit te montrer. Autant quelqu'un qui est nouveau dans le Seigneur, de savoir que, comme Aurélie l'a dit, je crois, dans ta pensée, tu as dit, de lire la Bible dans peut-être un format qui te convient mieux. Et aujourd'hui, il y a tellement de versions de façon adaptée. On avait présenté à un moment donné la Bible de Alfred Kuhn, qui l'a fait de façon vivante, la parole vivante.
Parole vivante.
Donc, tu as vraiment la possibilité de la lire dans des mots actuelle pour mieux la comprendre, ou encore une Bible d'étude avec vraiment les explications plus avancées, mais vraiment d'avoir ce cœur ouvert, de savoir que je ne la lis pas comme un livre philosophique, comme vous avez dit, mais vraiment comme un livre plein de révélations. Et la parole, elle est vivante et permanente. Et tous les jours, j'apprends quelque chose.
Ouais, la parole est tellement profonde. Pasteur Donato, ça fait plus de 30 ans ou je ne sais pas combien de temps que vous méditez la parole de Dieu. C'est un homme qui c'est riche, qu'est-ce qu'il y a en lui, justement. Et il peut dire à quel point c'est profond. Tu ne cesses de trouver des trésors, en fait, des choses révélées que le Saint-Esprit veut te montrer. Ceci dit, je ne veux pas que les gens pensent que c'est tellement poussé au profond qu'ils ne peuvent pas la lire pour eux-mêmes.
Oui, c'est pas accessible.
Et c'est ça qu'on veut écraser comme pensée aujourd'hui dans l'émission. Justement, au Québec, il y avait la mentalité, et puis évidemment, c'était pour garder un contrôle, mais ils disaient aux gens, lis pas la Bible, tu vas devenir fou.
Oui.
Oh. Et puis les gens ne pouvaient pas, ils lisaient pas la Bible, il y avait pas de Bible, jusque dans les années 1900, assez avancé, bons. Donc, tu vois, il y a une mentalité qui était là, et on veut pas que les gens pensent qu'il faut avoir des cours, c'est très bien, et tout ça, je suis pas du tout contre ça. Mais comme Aurélie, on a dit, la nouvelle naissance en nous, le Saint-Esprit, l'onction qu'on a reçue de Dieu, fait qu'on peut saisir les Écritures. Et il nous révèle au fur et à mesure qu'on grandit. Mm-hmm. Et puis moi, il y a quelque chose que je fais régulièrement jusqu'à aujourd'hui, et j'en parle. Et il y a des personnes autour de nous en qui on a confiance, que ce soit premièrement nos pasteurs et puis autre chose. Mais des amis, moi, je discute de la parole avec des personnes en qui j'ai confiance, que dans leur enseignement et tout ça, comme Pasteur Donato, j'aurais pas peur d'aller vers lui, Orantin, et lui dire, Pasteur Donato, il y a un verset que j'arrive pas à saisir. Est-ce que vous pourriez peut-être, et puis là, il pourrait apporter un éclaircissement que moi, j'aurais pas reçu, que lui, il a reçu. Et là, tes yeux font, waouh! Là, il y a une parole révélée de la part de Dieu au travers de quelqu'un d'autre aussi. Le Saint-Esprit fonctionne comme ça. Et donc, je veux encourager les gens à pouvoir échanger avec les personnes autour d'eux et ne pas se limiter, se dire, ben non, je dois lire la parole avec, je dois avoir un manuel à côté ou je dois... Non, non, Dieu veut qu'on puisse la lire parce que c'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous sanctifie, c'est elle qui nous change. Moi, c'est la parole qui m'a changé. La première des choses qui m'a changé le plus, c'est en lisant la parole de Dieu. Moi, j'avais une concordance Strong's et j'allais faire des études sur la famille, sur le mariage. Et là, je voyais tous les versets par rapport au mariage. À l'époque, j'étais pas mariée. Là, j'allais lire les versets et elle te transforme.
Oui.
Et c'est puissant. Et c'est pour ça qu'on veut encourager les gens à lire la Bible. Et puis, ben oui, c'est ça, c'est progressif, en fait, notre connaissance et notre compréhension.
Oui. Et en fait, peut-être une erreur qu'on doit vraiment éviter, c'est de penser qu'il y a des messages cachés dans la Bible. Il n'y a rien
aller
qui est caché.
Aller chercher
voilà.
Le truc secret.
Voilà. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret. Mais la clé, c'est la progression. Ça me fait penser un petit peu à Tintin. Rappelez qu'on disait Tintin, ça se lit de 7 à 77 ans.
C'est vrai.
C'est vrai. Je sais, j'ai pas encore 77 ans, mais j'y arrive. Hein. Et je lis encore Tintin. Mais je lis Tintin aujourd'hui d'une manière que je lisais pas avant. Je comprends des tournures que je comprenais pas avant. Alors ça, c'est dans le naturel. Imaginez-vous avec l'Esprit de Dieu, comme René l'a dit. On lit la même Bible, mais on grandit. Et alors qu'on grandit, on la comprend différemment, mais pas contrairement. Elle ne se contredit pas, la parole de Dieu. Mais on reçoit ce qu'on a besoin. Et je crois que la clé, c'est de se rappeler toujours ceci. Elle nous donne ce dont on a besoin quand on en a besoin.
Amen.
Ah ouais,
Amen. Elle parle pour nous transformer quand on en a besoin. Et si on fait ce que Aurélie, ce qu'on a dit en fait aujourd'hui, que on demande au Saint-Esprit de nous aider, de nous éclairer, ben il nous éclairera. Et ce dont on a besoin, elle sera là pour nous.
Exactement, exactement. Et un dernier conseil, Aurélie, c'est l'importance de la méditer. On la lit pas simplement. Comme un livre, comme tu l'as dit, mais on la médite. C'est quoi méditer exactement?
En fait, déjà, c'est quand on dit qu'on veut méditer la parole, c'est important de retirer nos lunettes avec lesquelles nous, on a l'habitude de lire pour inviter le Saint-Esprit à prendre place dans tout ce qu'on va faire. Et c'est en fait, déjà, réfléchir à ce qu'on va lire. C'est pour ça, il faut bien sûr trouver une bonne version, comprendre que voilà, ça vaut pas la peine si on veut vraiment comprendre d'aller chercher des... Il y a des versions plus complexes que d'autres. Moi personnellement, une version qui pour moi est facile, c'est Parole Vivante. Quand je lis, je trouve que le français est accessible, c'est facile. Il y a pas de mots que je ne comprends déjà pas de prime abord. Parce que si tu as la limite de la langue. Plus dans la limite de la compréhension, ça fait beaucoup.
Exactement.
Donc, on peut commencer déjà par quelque chose de très simple et commencer aussi à lire peut-être, ben, on dit souvent le Nouveau Testament, vraiment. Commencer par notre alliance, en fait, hein, celle qui nous concerne, le Nouveau Testament. Et puis, ça va nous permettre de comprendre par la suite. Et lire régulièrement, ça aide aussi. Parce que parfois, tu lis aujourd'hui et puis tu reviens dans 2 semaines et puis tu dis que tu veux comprendre. Mais en fait, il faut lire régulièrement. Et quand je dis régulièrement, 15 minutes par jour, vraiment, c'est suffisant pour transformer une vie. Même si on n'a pas besoin de prendre 3 heures, de s'asseoir pour dire qu'on va lire. On lit.
Si on a soif, on peut, mais ce n'est pas une obligation.
Oui, on peut le faire, mais 15 minutes, comme je dis, c'est largement suffisant. Tu lis avec, avec un esprit de prière, en fait, parce que tu as besoin que le Saint-Esprit t'explique des choses. Tu lis et puis tu peux poser des questions au Seigneur. Tu vois, là, on a vu que Jésus, avec les disciples d'Emmaüs, il a expliqué, ben, je ne sais pas combien d'heures ils ont fait, mais on dit qu'il est remonté depuis le début, depuis Moïse jusqu'à tous les prophètes, et il a expliqué tout ce qui le concernait, lui. Ça veut dire qu'il a pris le temps et les disciples étaient là en train d'écouter, en train de le suivre, en fait. Et là, ils ont eu un éclaircissement. Donc, quand on médite, dans une attitude de prière, on peut poser la question à Dieu. Je ne comprends pas, Saint-Esprit, ce verset, qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et c'est comme ça qu'on va prendre le temps d'être transformé. Et à coup sûr, il y aura des transformations. Ce n'est pas normal qu'on lise la Bible et qu'on n'est pas transformé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part.
Tout à fait, exactement. Pasteur Donato, on va continuer avec toi si tu le veux bien. On va passer un peu plus à la pratique. On va décortiquer justement comment bien comprendre cette Bible, cette parole vivante dont on a parlé avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a des choses aussi très pratiques à faire et on en parle tout de suite dans la rubrique Conseil du coach.
«
Pasteur Donato, on continue donc avec cette rubrique Conseil du coach. On va aller un peu plus en profondeur. Alors Aurélie a un petit peu dévoilé un des secrets de l'herméneutique qui est, entre autres, de comprendre le contexte, c'est ça?
Oui, en effet, Aurélie a fait du très bon travail. Je me demandais à quoi ça sert que je sois encore ici.
On se demande, on se demande.
À mon avis, c'est elle le coach. Merci Aurélie, parce que je crois que tu nous as vraiment apporté dans une bonne direction et ça nous a éclairés tous. En fait, c'est vrai, on essaie de lire la Bible, de la comprendre. Comme Franck le disait, c'est pas quelque chose qui est caché, hein, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible est lisible dans toutes les traductions. Alors que, par exemple, pour certains autres livres religieux, hein, dans d'autres religions, leur livre ne peut lire que dans la langue originale.
C'est vrai.
Et nous croyons que Dieu parle à chacun d'entre nous, même dans nos propres langues. Et ça, c'est extraordinaire.
Amen.
Et l'interprétation de la Bible, c'est une science, mais c'est aussi un art. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas A plus B égale C tout le temps. Il y a A plus B, des fois, égale C, X.
Mmh, c'est vrai.
Et il faut faire... C'est tout un art. Il y a un art par rapport à la lecture, par exemple, de la pensée hébraïque, la lecture des paraboles. On n'interprète pas une parabole comme on interprète un psaume. Quand on interprète un récit, on doit faire attention de ne pas faire une doctrine, à moins que la doctrine existe quelque part ailleurs. Donc, c'est bien. Et Aurélie a très bien fait, elle a parlé bien du contexte et en fait, on peut aller à notre première slide, le contexte gouverne le texte. On n'a pas le temps de voir tout en quelques minutes,
hein,
mais je crois qu'on peut quand même avoir quelques conseils c'est ça que je voudrais donner aujourd'hui, des conseils qui vont nous aider, peut-être aussi des erreurs à éviter.
Oui.
Et quelquefois aussi, on a la tendance à toujours écouter ce qui est dit du pupitre ou de ce que quelqu'un dit et dit le grec dit ceci ou le chose dit cela, etc. et tout. Et puis, on a la tendance à ne pas aller vérifier.
C'est vrai.
Alors, je parle d'expérience parce que moi-même, j'ai fait ça. J'ai dit, voici, ce passage veut dire ceci uniquement parce que je l'avais entendu dire par un autre serviteur de Dieu. Et puis, moi, je m'en vais et je vais le dire aux autres.
Il y a une responsabilité.
Et c'est énorme. Alors, on peut se tromper, c'est pas ça, mais l'erreur de ne pas aller vérifier, c'est une erreur grave. Surtout quand c'est quelque chose de nouveau, de spécial, qu'on n'a jamais spécialement bien entendu. Donc, il faut vérifier ces choses-là et
absolument
pas tomber dans ces erreurs-là.
Et donc, le contexte, c'est quoi? C'est le contexte historique? C'est le contexte du livre? C'est le contexte des personnages dans le livre? Comment ça...
Il y a un peu tout dans le contexte. Hein. Au premier abord, quand on parle de contexte, on parle de tout ce qui entoure le passage, le verset, etc. et tout. Ce qui conduit au texte, le paragraphe, les chapitres et tout. Mais attention, hein, parce que notre Bible n'a pas été écrite en chapitres et en versets, et encore moins en paragraphes. La Bible a été écrite, le Nouveau Testament, en grec. Et d'abord, elle a été écrite tout en majuscules.
OK.
Alors, quand un témoin de Jéhovah, je fais une petite parenthèse ici, vous dites, mais vous savez, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu, Dieu avec un tout petit dé, ils vont vous dire, le dé là, en grec, c'est en minuscule. Ouh, c'est pas vrai, parce que tout est en majuscule.
Ah. Erreur.
Mais le problème, c'est que si on ne sait pas, c'est un peu ennuyant, quoi.
Exactement.
Mais donc, non seulement c'est pas écrit en verset, en paragraphe, c'est même pas écrit avec des ponctuations.
Donc c'est comme du texte qui s'enchaîne.
Ouais. Et pourquoi?
Ah, je ne sais pas.
Parce que c'était écrit sur des peaux de mouton. Et les peaux de mouton coûtaient cher.
Donc, on limitait au maximum
voilà
les caractères.
Exactement.
Et... Okay.
Mais ce n'était pas uniquement la Bible, hein, c'était beaucoup de passages d'ouvrages de l'époque. Et quitte alors aux interprètes de bien la lire.
On voit que c'est un gros travail. Pour ceux qui ont traduit la Bible, c'était un gros travail.
Oui.
Mais pour nous, c'est un travail quand même de ne pas prendre juste un verset comme ça,
non,
sorti de son
exactement
contexte.
Exactement. Et c'est pour ça, celui qui a fait la Bible en chapitres et versets, c'est Robert Estienne, qui était un imprimeur à Paris. Je crois que c'était le 11e ou 12e siècle et tout. Il a fait un travail remarquable. Mais dans son travail, des fois, il n'a pas toujours mis l'endroit au bon endroit. Donc, c'est pour ça que non seulement c'est le paragraphe, le texte, les versets autour, mais des fois, c'est les chapitres autour. Et des fois, c'est le livre entier qu'il faut connaître.
Oui.
Hein. Et ensuite, après, il y a l'autre partie, donc, tu disais très bien, le contexte historique aussi. Et il y a un contexte historique qu'il faut faire attention. Et ça, bien sûr, on ne le sait pas toujours dans la Bible.
Non.
On utilise ce qui est autour de nous. En fait, nous, on parle souvent de la, du système d'interprétation qui est grammatico-historique. Okay. C'est-à-dire que le Seigneur a inspiré la Bible, mais ça a été écrit par des auteurs qui utilisaient une grammaire qui existait et aussi des présupposés qu'on avait. Quand on dit « et Jésus allait à la porte, à la piscine de Bethesda », nous on sait pourquoi il y avait beaucoup de malades. Parce que historiquement, c'était une piscine où on était convaincu qu'il y avait des guérisons qui s'y passaient.
Oui.
Et voilà. Mm-hmm. Donc l'histoire aide beaucoup à comprendre aussi. Mm-hmm.
Et j'imagine que pour comprendre les épîtres, c'est important aussi, en sachant que c'était des lettres, de justement les prendre dans... dans sa totalité, plutôt que juste un petit bout de l'épître?
Oui, non seulement c'est important de la comprendre dans la totalité, parce qu'il faut comprendre ce que la lettre est en train de dire avant de voir le verset. Mmh. Par exemple, Éphésiens parle très bien de la communauté, donc tout ce qui concerne Éphésiens, c'est la vie de l'Église. Mais même, c'est pas uniquement savoir le contexte du chapitre ou du livre même, c'est même important autant que possible de savoir quand le livre a été écrit.
Mm-hmm. Et à qui il s'adressait, j'imagine.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Parce que, par exemple, il y a ce qu'on appelle la loi de la première occurrence.
C'est-à-dire?
La première fois où quelque chose a été nommé. Par exemple, quand on parle de Job, dans Jacques, il parle de la patience de Job. Si on ne sait pas, et on ne lit pas dans l'Ancien Testament de qui est ce Job, bon, on aura difficile à connaître cette personne. Donc, on retourne à la première occurrence.
D'accord.
Et quelquefois, certaines semblant de contradiction s'arrange grâce à la loi de l'occurrence. À savoir, s'il y a une contradiction dans la Bible, laquelle a raison? Par exemple, dans mon prochain livre que j'écrirai à partir de l'année prochaine, je parle de certaines doctrines que l'on se dit à la maison, dans nos cuisines, quand on est en train de papoter ensemble, etc., et qu'on croit sans aller vérifier.
Oui.
Et une doctrine qui sort très fort, c'est remercier Dieu pour toutes choses, qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 20. Alors, il y en a qui sont allés à dire qu'il fallait même remercier Dieu pour le diable.
Oui.
Oh, diable, que c'est beau, Seigneur, qu'il est là. Non. D'autres vont à ce moment-là dire, alors que certains vont dire, ah oui. Puis si on dit la même chose, mais alors remercier Dieu aussi pour Hitler. Ah non, c'est pas possible. Ah ben, alors, c'est pour l'un ou pour l'autre doit fonctionner. Alors, c'est intéressant de voir où c'est ailleurs où Paul dit la même chose.
Oui.
Et dans Thessaloniciens, il dit remercier Dieu, pas pour toute chose, mais en toute chose,
c'est
qui est différent.
Exactement.
Alors on se pose la question, mais quand a été écrit Éphésiens et quand a été écrit Thessaloniciens? Éphésiens est écrit à la fin de la vie de Paul, Thessaloniciens juste un petit peu après Galates, donc au début du ministère de Paul. Et donc, la première occurrence fait priorité.
Je comprends.
Et il faut trouver à ce moment-là pourquoi, et est-ce que ça a été bien traduit, etc. Et tout. J'en parlerai dans mon livre.
Ah, il va falloir venir nous le présenter sur le plateau de Bonjour chez vous.
Oui, il viendra.
Je prends déjà rendez-vous. Un autre point, la Bible s'interprète par elle-même. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Pasteur Donato?
Que la Bible, justement, ne peut pas se contredire.
Ça, c'est important, parce que beaucoup de gens disent que la Bible se contredit. Enfin, en général, les incroyants ou ceux qui veulent un petit peu casser la Bible.
Ouais, ben, il y a même des croyants, hein,
c'est
qui
vrai.
Disent cela.
Je ne vais pas le dire.
Non, mais je dis tout haut ce que vous pensez tout bas, de toute façon. Oui, la Bible ne se contredit pas. Certes, c'est vrai que si on lit au premier abord, d'une manière peut-être naturelle, et c'est vrai que dans un livre normal, qu'il y ait une contradiction, on dira bah, l'auteur s'est trompé.
Oui.
Ou bien, mais c'est plutôt rare qu'on va se dire j'ai mal lu. Je crois que quand on lit la parole de Dieu, on doit se dire waouh, s'il y a une contradiction, c'est pas Dieu qui se contredit, c'est moi qui ne comprends pas.
Ouais, ça, c'est important.
Et il faut avoir ce courage et cette humilité de le dire. Parce que Dieu est vrai. Dieu ne peut pas mentir. À partir du moment où il y a une contradiction, c'est comme si Dieu se ment à lui-même. Ou il nous ment à nous.
Ce qui est impossible.
Exactement, exactement. Et donc, la Bible s'interprète par elle-même, mais s'interprète correctement. Je donne un exemple. Vous savez, il y a des gens qui, pour connaître la volonté de Dieu, ils ouvrent la Bible.
Oui.
Et il est marqué, et Saül prit son épée et se jeta dessus. Ah, c'est pas pour moi qu'il dit. Et puis il lit de nouveau, et est marqué, et toi, fais de même. Et puis il tourne, non, c'est pas possible. Et puis il voit Jésus qui dit, et ce que tu dois faire, fais-le promptement.
Ça marche pas.
Ça marche pas. C'est pas ça quand on dit que la Bible s'interprète par elle-même.
Okay.
La Bible s'interprète. D'abord, ce qui est important, c'est que quand on veut comprendre un passage, on va lire le reste de la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible n'est pas contraire à elle-même et elle avance en même. En fait, on appelle ça l'analogie de la foi. Mm-hmm. La Bible ne peut pas se contredire et ne peut pas contredire non plus, ou plutôt votre interprétation, mon interprétation ne peut pas contredire la Bible.
Oui.
Un jour, une dame est venue chez moi, elle m'a dit, Dieu m'a montré comment le mal vient, le péché originel vient lors de la conception. Mm-hmm. Et elle m'a dit, écoutez ce qu'elle a dit. Et pour connaître cela, elle m'a dit, ne lis plus la Bible pendant un an, mais observe le mal.
Oh, quel conseil divin. Aïe, aïe, aïe.
Alors que la Bible dit le contraire.
Oui.
Elle dit, éloigne-toi du mal et que cette parole ne s'éloigne point de tes yeux.
Ah, mais...
médite-la jour et nuit. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui disent, alléluia. Et puis imaginez-vous, elle a dit que elle parle du péché originel qui vient lors de la conception. Mais qu'est-ce qu'elle regardait pendant un an?
Effectivement.
Non, si il semble avoir une contradiction, c'est à nous d'essayer de harmoniser cela. Il faut dire qu'on a de superbes bons commentaires avec cela.
Oui.
Beaucoup de gens qui ont travaillé, qui sont des érudits. Mais quelquefois, on a l'impression qu'elle dit quelque chose qui est contraire. Par exemple, Jean 10, verset 15, dit ceci. « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Certaines personnes ont pris ce passage pour dire, vous voyez, Jésus n'est pas mort pour tout le monde.
Oh.
Il est mort uniquement pour ceux et celles que Dieu a choisis.
Mm-hmm.
D'ailleurs, un des plus grands expositeurs de la Bible actuelle, très connu dans le monde anglophone, mais aussi en francophone, d'ailleurs, une de ses Bibles, ou plutôt sa Bible existe en français aussi, cet homme-là est convaincu que lorsque la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde... Mm-hmm. qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui périsse, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde, là, est limité dans ce que Dieu a choisi.
Ouais, c'est ça, cette fameuse doctrine de l'élection. Hein.
Exactement. Hein, absolument. Donc, on ne peut pas croire que Jésus parle du fait que Dieu l'envoie pour une élite. D'ailleurs, ça se contredit parce que la Bible dit que Jésus est mort pour tout le monde. La Bible dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Amen.
Pas uniquement pour nous.
Mm-hmm.
Voilà. Bon, on est arrivé d'ailleurs. Je vois ici à notre troisième slide, interpréter les Écritures littéralement. C'est un principe important. On n'interprète pas les Écritures spirituellement. Allégoriquement. Si on peut l'interpréter littéralement, on l'interprète littéralement.
C'est-à-dire qu'on prend le texte tel quel, c'est ça ?
Tel quel.
Mm-hmm.
Malheureusement, au tout début de l'histoire de l'Église, les tout premiers pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, Augustin, Origène et tout, étaient spécialisés dans ce qu'on appelle l'allégorie. Pourquoi ? Ils lisaient un texte et ils étaient convaincus que le même texte pouvait avoir 4, 5, 6, 3, 4, 5 significations différentes.
D'accord.
Alors que par principe, dans notre système de compréhension de la Bible, chaque passage ne peut avoir qu'une interprétation, mais beaucoup d'applications.
Ok.
Hein, mais on peut pas dire que ça vaut la chose. Et alors ils sont entrés dans des choses tellement bizarres, et ça c'était dû aussi, il faut voir pourquoi, hein, parce que ces gens-là étaient très ancrés dans la philosophie, et surtout dans la philosophie grecque de l'époque, et il fallait qu'ils conciliaient leur partie philosophique avec la nouvelle voie qu'ils avaient reçue en Jésus-Christ. Et donc il fallait donner quelque chose de secondaire. Et par exemple, la femme de Jacob, Léa, représentait les Juifs.
D'accord.
et Rachel représentait l'Église. Hein? C'est joli, hein? C'est même très romantique, mais c'est pas biblique. Aaron et Hur, qui tiennent les bras de Moïse, l'un représente l'Ancien et l'autre le Nouveau Testament, ou plutôt Christ sur la croix. Les 12 pierres prélevées du Jourdain, ce sont les 12 apôtres. La mer Rouge, c'est le sang expiatoire de Jésus, etc., etc. Amen. Hein? Donc, on doit faire attention de ne pas tomber dans l'allégorisation. On doit prendre tout ce qui est possible littéralement. Lorsque la Bible dit « fais un mille de plus », fais-le littéralement.
Okay.
Mais quelquefois, il ne faut pas prendre littéralement. C'est-à-dire qu'on le prend littéralement quand on peut le faire.
D'accord.
Pas quand on ne peut pas le faire. Je donne un exemple.
Oui, je veux bien.
Matthieu 5, 29 dit « si ton œil droit
oui.
Et pour toi, une occasion de chute.
Arrache-le.
Non.
L'exemple est excellent, pasteur Donato.
Si vous voyez ça, vous avez droit, vous avez compris pourquoi. Mais il n'a pas dit l'œil gauche, attention, hein, parce que si on veut être littéral, il faut être littéral. Hein. C'est comme cette sœur qui venait toujours nous donner avec des gros bisous. Il dit, oui, le frère a dit un saint baiser. J'ai dit un, pas trois. Mais il y a aussi une autre chose qui est peut-être un peu plus, moins significative, plus significative et moins claire.
Oui.
La Bible dit dans Luc 14, 26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Ouais. »
Il est un fait que Dieu ne nous demande pas d'haïr.
Ben, absolument.
Par contre, c'est intéressant de voir ce que ça veut dire haïr dans la pensée hébraïque, et notamment dans la pensée de Dieu. Par exemple, Dieu dit « J'ai aimé Jacob ».
Oui.
Et j'ai haï Ésaü. Est-ce que ça veut vraiment dire que Dieu a haï Ésaü? Mais non, ça ne veut pas dire ça. Dans la pensée hébraïque, c'est une manière de dire j'ai choisi.
Oh, ouais, ça change tout. Ah, là, ben on comprend beaucoup mieux.
Yveline et toi avec Michael, vous avez choisi de suivre la volonté de Dieu, quitte à devoir quitter vos parents. Mais vous ne les haïssez pas.
Mais non, absolument pas.
On parlait encore avant l'antenne, combien tu es tellement heureuse de retourner là-bas. Moi, j'ai quitté mes parents pour quitter le beau pays, le plus beau pays du monde, qui est la Belgique, pour aller vers un autre pays beau, qui est la Suisse.
On ne commentera pas.
Mais nous avons choisi, et c'est ça qu'il faut comprendre.
Effectivement, et ça nous amène en fait à notre prochain point, si je ne me trompe pas.
Voilà. Hein? Ben, les récits font autorité uniquement s'ils sont soutenus par un commandement, ou s'ils sont repris dans le Nouveau Testament comme commandement. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qu'on ne peut pas répliquer. Samson, c'est le plus caricatural, avait 300 femmes et 700 concubines. Ce n'est pas réplicable.
Non, on ne réplique pas.
Ma femme, elle me le dirait la même chose. Ah, je suis unique dans ta vie. Et elle a raison.
Oui.
Et je veux qu'elle soit unique dans ma vie aussi, hein, et que je soit unique dans sa vie. Donc, on ne peut pas répliquer les choses comme Dalila, Samson, etc. et tout, comme David qui va pousser Uri à la ligne du front pour qu'il meure, mais uniquement, mais pas parce qu'il voulait Bathsheba, mais parce qu'il l'avait prise et qu'elle était enceinte.
Exactement.
Si elle n'était pas enceinte, il se serait arrangé pour qu'il continue à vivre, mais elle était enceinte, donc on ne peut pas réprimer, refaire cela. Amen. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire, soyez saints, comme l'Éternel est saint. Et on continue. Et c'est important de bien faire la part des choses, ce qui est réplicable et ce qui n'est pas réplicable.
Oui, c'est pas parce que c'est dans la Bible qu'il faut le faire, en fait.
Exactement. Et puis finalement, on va vers le prochain mot, chose qui est en fait, faites attention aux mots en grec et en hébreu.
Ça, c'est un gros point, parce qu'on l'a dit en début, c'est une Bible qui a été traduite, retraduite, retraduite.
Voilà.
Mais à la base, il y a quand même un texte original qui n'est pas dans la langue française, en l'occurrence.
Non, exactement. Et c'est vrai que le grec et l'hébreu sont importants. Je me débrouille assez bien en grec, un petit peu moins en hébreu, mais bien en grec.
Moi, je suis nulle dans les deux.
Non, c'est pas un problème. De toute façon, moi, je dis toujours comme ça, j'ai déjà assez avec le français. Pour le mettre en pratique, imagine tout. Hein?
Mais, pas mal.
Elle est pas mal, celle-là. Mais la bonne chose, c'est qu'il y a de très bons érudits qui nous aident. Amen. Et certains de ces érudits se sont manifestés par des bonnes traductions.
Okay.
Et en français, je sais qu'on n'a pas énormément de traductions. Par exemple, en anglais, il y en a des centaines. Mais on a des bonnes traductions actuelles qui nous permettent de bien aller dans le texte et aussi de nous aider à des fois en lisant une traduction, en la comparant avec une autre, etc. Et tout.
Ça, c'est bien de faire des comparaisons de traductions.
Voilà.
Ça aide à comprendre vraiment
exactement,
le sens global.
Exactement. En revanche, par exemple, une traduction comme La Parole Vivante, qui est une très belle version, c'est plutôt une paraphrase. Donc, ce n'est pas une Bible d'étude. C'est surtout une Bible pour mieux comprendre. Et Aurélie, d'ailleurs, elle a dit, quand je lis, je comprends. Hein? Mais il y a des Bibles d'étude, la NBS, la Louis II 21, la Nouvelle, elles sont des bonnes Bibles. Même la Bible du Semeur, qui est très intéressante aussi. Donc, mais je donne un petit exemple ici. Parce que des fois, on dit, le grec dit ceci. Et on pense que parce que le mot peut dire plusieurs choses, qu'on peut choisir qu'est-ce qu'il veut dire dans le passage.
C'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Well, ça ne marche pas comme ça. Alors.
La clé est toujours la même chose. Dans un seul passage, il ne peut signifier qu'une chose.
Oui.
Et c'est à nous à le trouver, ce qui signifie, d'accord, hein? Par exemple, le mot grâce. La Bible dit dans, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ephésiens 2, 8. Et puis, Luc 6, 32, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré. C'est de nouveau le mot charis en grec. Okay. Grâce, hein. Vous en saura-t-on si vous aimez, ceux qui vous aiment. En d'autres mots, quelle est la chose? Alors, ça a été traduit par deux choses différentes. Et c'est juste. En fait, on aurait pu, si vous aimez ceux qui vous aiment, mais quel mérite en avez-vous? Mm-hmm. On n'en peut pas dire quelle grâce en avez-vous. Qu'elle mérite. La même chose, par exemple, dans Matthieu 10, 28, et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt ceux qui peuvent détruire l'âme et le corps dans la GN. Le 38 dit ceci, celui qui a trouvé sa vie, c'est toujours le mot âme en grec.
Ok. Hein,
la perdra, et celui qui aura perdu sa vie, toujours le mot âme en grec, par amour pour moi, la trouvera. Et en fait, là, c'est très bien traduit, parce qu'il montre très bien que l'un, ces deux mots, c'est toujours le même mot grec, mais dans ces deux passages, il ne peut pas dire autre chose que ce qui a été traduit comme ça.
D'accord. Donc, généralement, les traductions sont quand même bonnes.
Ah oui.
Mais il peut y arriver qu'il y ait des erreurs quand même.
Alors, je ne dirais pas des erreurs, parce que toute traduction est une interprétation de facto.
Effectivement.
Hein?
Effectivement.
Mais, et quelquefois, c'est parce qu'on peut-être qu'on n'a pas toujours, je donne l'exemple de la serviette.
Oui.
Si je dis, Donato, ou par exemple, on va parler de toi, hein, Evelyne monta dans le train avec sa serviette. Mm-hmm. Elle ouvrit sa serviette et prit une serviette qu'elle étala sur sa banquette, mm-hmm. s'assit sur sa serviette et mit sa serviette sur la main, sur les genoux.
Okay.
Vous comprenez qu'on parle de deux serviettes.
C'est ça. Il y a la serviette en mode sacoche.
Exactement.
Et la serviette.
Exactement. Okay. Dans le contexte, quand tu mets ta serviette sur la banquette pour pas te salir, mm-hmm. et que tu mets l'autre serviette sur la main, le contexte montre que c'est la serviette qui est ta sacoche,
oui.
qui est sur tes genoux et pas l'autre, le pas vice versa. Donc c'est la même chose dans la parole de Dieu. Mm-hmm. On doit vraiment faire attention et le voir ensemble.
Et il y a une logique, donc il y a une cohérence.
Voilà,
en fait.
Et ça, c'est le contexte qui aide.
Exactement. Super intéressant, Pasteur Donato. Et vous nous avez sélectionné trois livres qu'on peut regarder, que vous nous recommandez, ouais. qui sont des bons livres quand même accessibles. Un nouveau regard sur la Bible. On a également Le défi de l'herméneutique, comment interpréter la Bible, et Introduction de l'herméneutique et à la méthode d'études bibliques, qui sont des livres que vous pouvez trouver sur Google, faire des recherches, mais qui sont des bons livres que vous recommandez.
Absolument. Hein.
C'est génial, merci beaucoup, c'était super intéressant vraiment. Et en fait, on aurait aimé en savoir plus. Vous avez fait un in-studio, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs années maintenant, en détaillant un peu plus justement ce qui a été apporté aujourd'hui. Si vous voulez le découvrir, il est sur emcitv.com. Vous pouvez taper ce merveilleux mot qui est herméneutique.
Exactement.
Et vous trouverez ce que le pasteur Donato avait fait. Pasteur Donato, on se retrouve demain. On n'a pas fini encore ensemble. Demain, nous nous retrouvons. Je cherche. Veux-tu ranimer le don de Dieu qui est en toi? Vous allez faire la pensée du jour.
Yes.
Pasteur, j'ai une question et nous aurons la rubrique culture et médias qui est un peu une suite d'aujourd'hui puisque Nadine va nous donner des apps pour méditer la parole de Dieu pendant l'été. Et oui, pendant l'été aussi, on médite la parole de Dieu. Allez, on se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et merci beaucoup, Pasteur Donato. Bonjour chez vous.
Je suis tellement heureuse de savoir que nombreux sont ceux parmi vous qui soutenaient UMCI. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez devenir partenaire mensuel avec UMCI. Quelle joie de penser à ce que l'Éternel est en train de faire. Alors de tout cœur, au nom de UMCI TV, je vous remercie et je vous bénis.
Dès maintenant, donnons pour faire entrer UMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.